Monsieur Dominique Bettig, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien conseiller national UDC et, pour la chose qui nous intéresse aujourd'hui, vous êtes aussi psychiatre.
Oui.
Nous allons parler aujourd'hui, si vous le voulez bien, de la modification de la loi française sur l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, l'avortement, pour être un peu plus clair dans les termes. La ministre Najat Vallaud-Belkacem vient de demander la suppression et de l'obtenir, la suppression de la raison de la détresse de la femme à l'origine de tout avortement. Alors, on va faire un petit peu de contexte. À l'époque, dans les années 70, hein, on est sous Valéry Giscard d'Estaing, Simone Veil fait passer la loi sur l'avortement en rappelant qu'il doit s'agir d'une exception fondée justement sur la notion de détresse. Aujourd'hui, on la supprime. Qu'est-ce que ça signifie?
Bah, je crois que les masques tombent et puis on voit dans quelle direction va cette technique du salami. Je crois qu'on aurait pu discuter. Enfin, moi, comme médecin, je suis prêt à discuter de l'avortement dans un contexte médical, d'abord, de problèmes pour la santé de la mère et de l'enfant. Aussi dans le cadre d'un contexte d'une détresse psychologique grave, pour moi ça peut se discuter, hein. Je suis pas un fondamentaliste de la lutte contre l'avortement, mais on voit qu'il y a un glissement progressif. Ben, chez nous, il y a eu la solution des délais qui laissait finalement la possibilité à toute femme pendant une période limitée au début de la grossesse de faire une demande écrite à son médecin pour obtenir une intervention de grossesse. C'est encore trop, je pense, pour ceux qui au nom d'un certain féminisme combatif, veulent considérer que c'est un droit exclusif de la femme de décider de faire ce qu'elle veut de son corps, alors que l'enfant qui va être conçu ou qui est conçu n'est pas que son corps. C'est aussi le corps social, c'est aussi Il y a aussi un père, hein. Et puis moi je suis choqué de l'évolution. Et puis on voit maintenant en France effectivement que ben voilà, c'est banalisé, c'est un droit, point à la ligne. Et c'est vraiment une évolution grave. Je crois que en France, la gauche socialiste qui ne se préoccupe plus que des questions sociétales, hein, exclusivement, qui a fait faillite sur tout le reste, l'économie, la fiscalité, la souveraineté nationale, la politique étrangère. Ils font une sorte de fuite en avant vers des sujets imposés par l'idéologie ultralibérale. C'est le mariage pour tous, c'est le droit à l'avortement pour toutes les femmes et en tout temps. Hein. Et puis pour moi, c'est grave. L'étape suivante, c'est quoi? C'est l'euthanasie remboursée par la Sécu pour tous ceux qui le veulent ou ceux qui sont dérangés par quelqu'un qui est gravement malade, qui peut faire cette demande. On va vraiment vers une société d'individualisme, de mort, à mon avis. C'est vraiment grave, quoi.
Est-ce qu'il faut rappeler le contexte aussi en Suisse, le code pénal, l'article 119 du code pénal, donc autorise les avortements jusqu'à 12 semaines en cas de détresse, mais au-delà aussi en cas de détresse profonde.
Oui, donc ça signifie que en fait, on a beaucoup discuté sur les risques si on laisse l'avortement être autofinancé du recours à des techniques illégales. Mais j'entends moi comme médecin qui a fait ce travail d'avis conforme pendant des années et des années. Autrefois, je peux vous dire que ces cas-là n'existent pas. Une femme qui veut avorter, même hors délai, elle obtiendra toujours du gynéco que soit fait au nom de la détresse extrême. J'entends, il n'y a pas d'obstacle réel et concret.
Alors justement, ce qui paraît curieux, c'est que dans la mesure où les notions de détresse et de détresse profonde n'ont absolument aucune définition juridique, et donc aucune capacité d'application, pourquoi vouloir supprimer ces notions? Qu'est-ce que ça signifie?
Je pense que c'est encore trop. Tout ce qui est considéré comme étant un frein à un droit acquis, devoir se justifier, devoir s'expliquer, devoir passer devant un médecin et éventuellement donner des arguments qui montreraient qu'on est dans une situation de détresse, c'est encore trop. C'est encore un obstacle, hein, infamant. Enfin, lorsque j'ai participé à Infrarouge là l'autre jour, c'était clairement ce que disait la personne qui voulait témoigner de son vécu difficile quand elle avait fait un avortement, c'était qu'elle trouvait encore humiliant, encore plus humiliant et contrariant de devoir justifier le regard d'autrui, le médecin trouver des raisons. Puis à mon avis, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait au moins un freinage, que la personne ne soit pas fait tout de suite, que la personne doive en discuter, que des alternatives soient proposées. Moi, je suis partisan du freinage. C'est un droit acquis. Le toubib pourra toujours trouver une raison de détresse profonde, même si c'est instantané. Mais on doit mettre un certain freinage par rapport à ça. Puis laisser le claquement de doigts de la décision instantanée d'interrompre une grossesse, moi, je trouve que c'est vraiment grave, quoi. C'est vraiment grave. Surtout que c'est quand même une vie potentielle à naître. Il y a un père, il y a une responsabilité sociale aussi. On est en décroissance démographique. Moi, je trouve que c'est fou d'arriver à une telle logique. La société ne devrait pas accepter ça.
Alors moi, il y a une chose qui m'a vraiment beaucoup frappé, c'est la montée d'une sorte de brouillard éthique sur la question. On a senti d'abord le malaise des journalistes sur la question de l'avortement. Fallait-il revenir ou non sur le débat? Cette initiative n'était-elle pas un moyen d'y revenir un petit peu par la porte de derrière? On a entendu ensuite des éthiciens comme Denis Muller qui reprenaient les arguments des partisans de l'avortement comme Anne-Marie Rey, qui nous disaient que dans le ventre des mères, il y avait bien un être, que cet être était bien humain, mais que ce n'était pas une personne humaine. Qu'est-ce que c'est que cette distinction? Je veux dire, apparemment, en droit suisse, avant les premières douleurs de l'accouchement, il n'y a pas une personne dans le ventre des mères, et juste après, il y en a une domaine d'application, accident de voiture, fausse couche, eh bien, il n'y a pas d'homicide involontaire. Tandis que si l'enfant est attaché derrière dans la voiture, alors c'est depuis qu'il est blessé ou qu'il est tueur, à ce moment-là, on a atteint une personne. C'est quand même très étrange. Je veux dire, on accuse les pro-avortements d'être complètement rétrogrades, on parle de retour en arrière des moments où on évoque l'IVG, et on a l'impression que leurs adversaires évacuent complètement l'observation scientifique de la vie in utero.
Oui, alors c'est clair que le droit remonte encore à une époque où on faisait la distinction. Effectivement, l'enfant qu'on ne voit pas parce qu'il est encore dans le ventre de la mère n'est pas une personne. Mais aujourd'hui, maintenant, on a quand même des techniques, déjà d'ultrasons pour pouvoir voir l'enfant à naître. Et puis je dirais même les techniques médicales de visualisation sont telles que ça doit être difficile pour les gens qui disent que c'est pas une vie, de le justifier, puisqu'on peut voir, puisqu'on a maintenant des connaissances une visualisation possible du développement du fœtus et de l'embryon qui sont très sophistiquées. Donc la loi est complètement rétrograde, là. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on change complètement ça. Et puis je plains ceux qui doivent trancher, hein. Est-ce que c'est la deuxième, troisième, quatrième cellule, cinquième? C'est une question de société qui mériterait d'être discutée. Puis la question maintenant, ben c'est que tant qu'on ne voit pas, tant que c'est dedans, ben on ne s'en préoccupe pas. Et c'est une possibilité d'hypocrisie effectivement énorme. J'ai regretté qu'on n'ait pas eu le temps de discuter avec Laetitien, là, parce que je l'attendais là-dessus. Je disais, mais à partir de combien de centimètres, combien de cellules, vous considérez que c'est un être vivant? Est-ce que c'est quand son cœur bat, quand il vous répond, quand il sourit, quand il bouge, quand il donne un coup de pied? Enfin, horrible travail que celui qui consiste à mesurer, à calculer, puis à dire là c'est encore pas un être humain, là maintenant c'en est un, j'aimerais pas être dans ce rôle-là.
Il y a une nouvelle de l'écrivain de science-fiction Philip K. Dick, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Les Préhumains, et qui parle justement d'une société qui peut, entre guillemets, avorter ses enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, parce qu'avant 12 ans, ils ne savent pas faire de l'algèbre. Alors, il y a quand même un petit peu cette question.
Ouais, bien sûr, on est un peu
Finalement,
dans cette logique-là.
est-ce que le débat éthique, c'est pas qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Parce que le même problème se repose en fin de vie sur une notion de qualité de vie, et à ce moment-là, les personnes semblent cesser d'être pleinement humaines dans la mesure où elles ne peuvent pas pleinement jouir matériellement de l'existence.
Non, mais
C'est assez
c'est des
curieux.
dérives graves, moi je trouve, autour de l'euthanasie. J'ai vu qu'en Hollande, il y a maintenant la possibilité de faire subir une euthanasie à des enfants qui ont des maladies graves ou lourdes. Moi, je trouve qu'on est en pleine dérive matérialiste, non respect de la vie, et c'est vraiment gravissime. Moi, ça me fait froid dans le dos quand je vois comment cette société évolue.
Parce que si on est dans le matérialisme, alors ça veut dire qu'on est dans l'argent. Ça veut dire que on envoie, on pousse gentiment vers la sortie les vieux qui coûtent cher, éventuellement les malades, les handicapés, les pauvres, ça c'est déjà vu. Mais là, par exemple, il y aurait moyen d'économiser quelques sous sur la question du remboursement de l'avortement. Et là, les matérialistes, curieusement, ne se réveillaient pas et ne veulent pas en entendre parler. C'est un petit peu
Ouais, il y
étrange.
aurait surtout de la, je sais pas si je pense qu'on peut toujours faire des économies aussi là-dessus, mais toutes les naissances qui ne se font pas pour des raisons de commodité, je ne discute pas des raisons médicales profondes que je respecte, c'est aussi un manque à gagner pour l'économie. Moi, je m'étonne que les milieux de l'économie ne se préoccupent pas de ces questions. Hein. Pourquoi se priver de forces croissantes qui viennent localement et puis devoir importer à grand prix des enfants déjà faits d'ailleurs. Moi, vraiment ça choquant, quoi.
Et puis une question qui a été à peine effleurée, notamment lors de l'infrarouge, c'est les coûts sur la santé conséquents à un avortement.
Ah oui, là, ça, on aimerait bien que Monsieur Berset diligente une fois une grande étude sur les conséquences à court et à long terme de l'avortement. Mais c'est aussi un peu un sujet tabou parce que vous aurez des gens qui ne veulent pas en parler, même s'il y a des problèmes. C'est aussi difficile, ça, d'obtenir des données objectives. Mais là, j'ai mon vécu, moi, de thérapeute, qui montre que effectivement, ça fait des dégâts des années après, en termes psychologiques et puis physiques aussi, hein. C'est pas non plus anodin, les avortements chimiques ou par aspiration, j'entends. Il y a des stérilités post-avortement, il y a quand même il y a des dégâts collatéraux qui sont certainement aussi importants que les économies de bout de chandelle qui nous accusent d'avoir l'intention de faire. Avec l'autofinancement de l'avortement. Mais ça, c'est des sujets tabous qu'on n'ose pas aborder. Alors qu'il faudrait, moi, je pense qu'il faudrait qu'on insiste une fois pour qu'il y ait une étude qui soit vraiment faite dans les règles de l'art. Mais personne ne veut vraiment rentrer là-dedans, quoi. C'est un droit acquis. On joue sur la honte. On veut pas en parler. Et puis, bien sûr, on veut pas faire les études après. Mais il faudrait, je pense, le demander une fois. Je sais que ça se fait ailleurs. Il y a des études qui ont été faites ailleurs et puis qui sont assez explicites par rapport à ça.
Parce qu'on sent quand même une légère évolution du débat sur la question. On n'est plus dans la revendication stricte du droit. On reconnaît quand même depuis quelques années maintenant que l'avortement n'est pas un acte anodin, que c'est pas un acte facile, même si concrètement, politiquement, on fait comme si c'était le cas. Je veux dire, est-ce que cette question de ce que les Américains appellent le post-abortion syndrome, donc le syndrome post-avortement, existe et reconnue en psychiatrie en Suisse?
Pas en tant que tel, mais c'est clair que ça, parce qu'il n'y a pas une pathologie identifiable clairement, mais c'est quelque chose qui peut déclencher des états de stress post-traumatique, qui peut déclencher des troubles dissociatifs de la personnalité, des dépressions, des troubles anxieux, des complexes du survivant. Enfin, il y a des dégâts à toutes sortes de niveaux de troubles psychiques construits ou légers, mais qui ont une incidence sur la qualité et la santé. Il faudrait une fois pouvoir le faire, mais c'est un tabou parce que on rentrerait là aussi dans le vécu subjectif, et puis la partie adverse veut pas en entendre parler, quoi. C'est un droit, point à la ligne, on n'en parle plus, circuler, il n'y a rien à voir, et puis ne touchez pas à nos acquis.
Est-ce que les femmes sont informées de ce genre de risques, de conséquences?
Écoutez, on devrait le faire. Moi, je me souviens quand j'avais ce rôle avant 2002 de délivrer des avis conformes, j'essayais toujours de le faire, mais maintenant, il suffit de faire une demande écrite. Dans la réalité, personne n'ose même envisager, discuter avec une femme qui souhaite une interruption de grossesse parce que c'est considéré comme un droit acquis et puis elle veut pas discuter, donc elle veut pas être informée. Et puis les toubibs n'ont pas de temps à perdre à dire ne faites pas parce que, surtout le gynécologue, vous voyez, le psychiatre qui n'a pas d'intérêt économique dans l'affaire pouvait encore discuter, mais le gynéco, il va pas renoncer à sa cliente en disant mais c'est pas bien ce que. Il y a des risques de stress post-traumatique, il y a des risques de complications, il y a des choses sur lesquelles on passe, puisqu'on considère que la détresse psychologique est tellement plus importante que toute autre considération, qu'on ne va pas avoir l'outrecuidance d'opposer des arguments contraires. C'est contraire au droit des femmes de discuter de ça, ou c'est faire montre d'un esprit rétrograde, catholique, religieux, ou que sais-je. Donc psychologiquement, le toubib n'ose plus freinée. C'est déjà une évolution qui se fait dans ce sens-là.
Vous avez évoqué aussi le syndrome complexe du survivant. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ben c'est le fait, dans une fratrie par exemple, de savoir qu'un des enfants a été avorté. Donc pourquoi moi je suis vivant, puis l'autre pas? Ça pose toutes sortes de questions. Ou bien, ouais, quand on a soi-même des frères ou des sœurs qui n'ont pas, qui n'ont pas survécu à ça, on se pose la question pourquoi. Enfin, voilà, c'est un trouble psychique qui est là potentiellement. Donc, il faut pas sous-estimer le manque ou l'absence ou l'explication autour de l'absence d'un enfant dans une fratrie, parce que ça finit toujours par se savoir. Et puis, la question d'être désiré, pas désiré, enfin, j'entends. Comment on voit son parent quand on sait qu'un des enfants potentiels dans la fratrie n'a pas été pris, n'a pas été accepté, c'est aussi des choses qui sont pas anodines. Moi, je me demande comment les gens vivent avec ça. Franchement, c'est difficile.
Donc en fait, les conséquences psychologiques de l'avortement ne touchent pas que les femmes.
Ah non, non, je pense que ça touche la famille, l'histoire de la famille, les enfants, la fratrie, etc., etc. Il y a un impact global.
Parce que le grand argument des pro-avortements, c'est qu'il vaut mieux finalement être avorté que naître et ne pas avoir été désiré. Mais on
Oui, mais
s'aperçoit
ça.
que si un seul a été avorté et que les autres n'ont pas, elles n'ont pas été, ils transportent avec eux finalement cette expression lacunaire du désir.
Tout à fait. Et puis d'ailleurs, c'est un mythe, ça. Je pense que si les parents qui décident à un moment donné d'avoir des enfants et qui les désireraient, c'est une toute petite minorité. Il n'y aurait plus de vie sur Terre si ça ne fonctionnait que comme ça. Puis surtout, dans une société d'opulence comme la nôtre, c'est la fin de la société si on commence à se poser la question. Non. Puis la vie est ainsi faite qu'elle peut aussi résister aux circonstances exceptionnelles. Donc ça, moi je trouve que c'est pas des arguments, c'est de la médecine préventive, hein. Les féministes disent il vaut mieux pas faire souffrir une mère qui deviendrait déprimée parce qu'elle n'a pas souhaité une grossesse, parce qu'après non seulement elle sera déprimée, mais elle va aussi répercuter cette dépression sur les enfants. On n'en sait rien, hein. C'est peut-être juste une détresse transitoire comme les questions du suicide, mais que c'est pas quelque chose qui, si la personne avait eu un peu de temps de réflexion, elle aurait peut-être changé son point de vue après. C'est aussi simple. Ça me semble un peu comme si, bah, je sais pas, quelqu'un qui est suicidaire, qui va chez le médecin, qui dit je veux me tuer, ou j'ai une maladie grave, je veux mourir, puis le toubib lui dit oh, ouais, ok, vous avez le droit, allez-y, sans se donner le temps de la réflexion, de la discussion. Peut-être que quelques semaines plus tard, la personne a fait son acceptation et puis elle voit les choses différemment. Et puis on peut changer le cours des choses, tandis que là, on discute pas. C'est tac, je veux, point à la ligne, ok, ça marche tout de suite, demain, c'est fait, sans qu'il y ait la possibilité de réfléchir, de sortir de la pression psychologique du moment, de reconsidérer le contexte, des choses comme ça. C'est ça qui m'a toujours choqué dans la pratique de l'avortement, aujourd'hui
Oui,
en tout
on
cas.
se souvient qu'en 2005, la Commission nationale d'éthique avait demandé qu'on ouvre l'euthanasie des enfants sur simple demande. Est-ce que vous pensez finalement qu'il n'y a pas une volonté de conformité, que ce soit dans l'avortement, dans l'euthanasie, de se conformer au désir passager de mort finalement?
Ah oui, on est tout à fait dans ça.
Donc c'est une société du fatal, ouais. Alors, Monsieur Dominique Bettig, ancien conseiller national et membre du comité d'initiative L'avortement est une affaire privée, nous vous remercions.
Merci, à bientôt.